Bonjour à tous, bienvenue. Et nous voilà maintenant avec Matot Massé, une double portion de Parasha, à la fin du quatrième livre, le livre des Nombres, celui qu'on appelle Bamidbar, dans le désert. Pour recontextualiser, hein, on a déjà passé le veau d'or, les explorateurs, les massacres, les épidémies, l'orgie, le Baal Péor, la révolte de Korach, Balaam. Et alors on nous dit, on est là bientôt, on arrive en terre promise, Canaan est juste là. Mais bon, comme ça fait depuis 40 ans qu'on nous dit ça, le peuple est un peu au bout du rouleau. Et donc on se retrouve avec cette paracha Matot Massé qui, selon moi, et un peu la paracha fourre-tout, quoi. C'est un peu, on a fini le déménagement, on a fait la caisse livre, la caisse CD, la caisse vaisselle, et il nous reste ce tiroir de fond avec tout ce qui reste. La paracha Matot Massé couvre un tas de sujets. Elle commence avec la loi reliée au Neder, au vœu. S'ensuit une guerre assez effroyable contre les Médianites. Après cette guerre, il y a la répartition des biens pillés, le bétail, le petit bétail, le gros bétail. Dans tout ça, on nous fourre les lois de la cache-croûte sur les ustensiles. Ensuite, il y a la répartition des terres entre les différentes tribus, la délimitation des frontières de Eretz Israël, le fameux « from the river to the sea ». Avec tout ça, on nous ressort le dossier des villes-refuges pour finir avec les lois de mariage entre tribus. Donc là, je me dis vraiment de quoi je vais leur parler aujourd'hui. Et c'est important pour moi aussi de rétablir mon rôle ici avec vous aujourd'hui. Mon rôle n'est pas d'avoir raison. Ce que j'essaye de faire aujourd'hui avec vous, c'est de remettre la Torah dans sa contemporanéité. De poser la question, est-ce que la Torah a encore quelque chose à nous dire ici et maintenant, aujourd'hui, 6 juillet 2026, entre canicule et le Brésil qui vient de perdre à la Coupe du Monde? Qu'est-ce qu'elle a encore à nous dire? Et si elle n'a plus rien à nous dire, tov, j'irai lire un autre livre, il y a plein de super histoires et super livres. Si elle a encore quelque chose à nous dire, je passerai mon temps inlassablement à essayer de la faire parler. Alors comment choisir le sujet sur lequel on va parler aujourd'hui? Je m'attelle à chercher ce qui m'agite, ce qui m'anime, ce qui me dérange, ce qui me chatouille, ce qui me titille. Quand je lis quelque chose et que ça me met mal à l'aise comme ça, je sais exactement là où je dois aller travailler. Et cette semaine, dans ma tote, la paracha s'ouvre avec un paragraphe qui m'a fait un peu grincer des dents sur les lois du Neder. Mon hypothèse est que je vais, avec vous, essayer de relier le début de la paracha de Matot à la fin de la paracha Massé. Et je vais ainsi boucler la boucle et avec elle clore le livre des Nombres. Alors voilà, le début de la paracha Matot commence avec les lois du Neder. Les lois du Neder, c'est vraiment un sujet éminemment complexe et développé, qui a ses propres traités talmudiques, le traité Nederim et le traité Kedoshim. Donc on peut voir, revoir, commenter, lire, relire ce sujet indéfiniment. On ne va pas faire ça aujourd'hui. On va sentir un peu à la règle de base qui nous dit que le Neder, c'est une sorte d'interdit qu'on s'impose à soi-même. C'est un vœu qu'on fait pour soi-même. Par exemple, moi, je souhaite d'arrêter la clope à partir de 2027, ou moi, je souhaite faire du jeûne intermittent tous les jours entre 20h et 10h pour réguler mon cycle nerveux, voilà, peu importe. C'est une règle que je m'impose à travers la parole. Alors, une fois que ce souhait a été émis, je ne peux pas y faillir. En fait, depuis Bereshit, on sait que la parole est créatrice. Dans ce monde un peu flou, manque de contours, de formes, un peu absurde, on a besoin de repères. Et existe seulement ce que l'on nomme. La parole nous engage. Et donc, la loi du Neder nous dit qu'une fois qu'on s'est souhaité quelque chose, qu'on a promis quelque chose, on en est lié. À part le premier soir de Kippour, durant le Kol Nidré. Alors, jusque-là, tout va bien, tout semble très clair. Ce que la plupart des Dvar Torah qu'on peut lire et de cette magnifique loi du Neder ne nous dit pas, c'est que la paracha Matot passe ensuite un long paragraphe sur les neders liés aux vœux des femmes. Parce que surprise, surprise, dans la Torah, les droits et obligations entre les femmes et les hommes ne sont pas exactement égales. Et c'est pas grave. Mais on va quand même passer un peu de temps pour comprendre ce que ce paragraphe nous dit. En bref, ce paragraphe délimite, divise la vie d'une femme entre trois grandes périodes de sa vie, à savoir avant le mariage, durant le mariage et une fois veuve ou répudiée. Le paragraphe nous dit que si une femme émet un vœu pour elle-même, son père a le droit d'annuler ce vœu. Dans un espace-temps de 24 heures, il a quand même le droit d'annuler son vœu. Et une fois que l'autorité du père passe au mari, c'est le mari qui a le droit d'annuler le vœu de sa femme. Donc finalement, la femme, elle est responsable de sa propre parole seulement une fois le mari mort ou avoir été répudié. Alors voilà, en lisant ça, moi je me sens un peu inconfortable. Je me dis, et moi, où est ma place? Est-ce que ce texte veut vraiment de moi, moi qui ne suis ni veuve, ni répudiée, ni mariée, ni même chez mon père? Est-ce que le texte veut de moi? Alors, les gens pourraient me dire, les auditeurs pourraient me dire, mais Julia, t'en fais des tonnes, t'exagères. Non seulement t'es communiste, mais t'es aussi beaucoup trop féministe. C'est un texte révolutionnaire, parce que c'est un texte qui donne enfin une place juridique à la femme, même si elle est sous tutelle ou sous conditionnement de l'homme, sous l'approbation du regard masculin, elle a quand même une place. Et puis en plus, l'annulation n'est que dans 24 heures, donc finalement, l'homme n'a pas un droit sur la parole générale de la femme, c'est juste 24 heures. On pourrait me dire aussi, Julia, t'exagères, je veux dire, aucun texte ancestral proche oriental ne donne même une place à la femme. C'est tout à fait novateur. Et on pourrait me dire aussi, ça n'a absolument rien à voir avec ce que tu penses, c'est juste une répartition des tâches au sein du foyer, c'est une manière de dire, bon Julia, tu ne pourras pas utiliser le budget de la maison pour t'acheter une paire de Manolo Blahnik, quoi. En fait, la responsabilité financière ou légale retombe sur le mari. Et peut-être que ce n'est pas plus mal. Alors voilà, moi j'entends bien toutes les limites de ce paragraphe. Néanmoins, je pense quand même que nos mères, nos grands-mères, n'avaient toujours pas droit à avoir leur propre compte en banque. Je me souviens qu'en Suisse, le pays où je vis aujourd'hui, n'a alloué le droit de vote aux femmes seulement en 1971. J'aimerais rappeler quand même qu'en France, c'est plus de 270 000 femmes chaque année qui sont victimes de violences conjugales. Et que ça, ce n'est seulement qu'une femme sur six qui porte plainte. Ça veut dire qu'il y a cinq femmes dont la parole n'est pas entendue, n'est pas vue. Les chiffres sont connus. On connaît 5% des femmes disent avoir été incestées au sein de leur famille avant 18 ans. Un tiers de ces femmes, c'est par le père ou le beau-père. Donc en fait, on peut dire non, mais en fait... Ce n'est plus, ce texte est archaïque, c'est un vestige du passé, la Torah, c'est un autre temps. Moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je me dis, ouais, c'est un autre temps, mais finalement, c'est encore vraiment bien, bien, bien présent dans notre manière de faire société aujourd'hui. Et si on n'a pas envie d'aller aussi loin que les viols, les mariages forcés, les viols conjugaux, la violence domestique, on peut juste penser à l'histoire de l'art. Se dire qu'en fait, une grosse partie de l'histoire de l'art, les femmes n'ont pas eu de reconnaissance à part entière pour leurs œuvres. Je pense notamment à l'histoire de Camille Claudel et de Auguste Rodin, de Picasso avec approximativement toutes ses femmes, Dick Krasner, Jackson Pollock. Enfin, je veux dire, ça nous prend encore énormément de temps pour que le vœu que les femmes portent pour elles-mêmes, sur leur corps, sur leur choix de vie, puisse être assumé entièrement sans l'approbation, la reconnaissance ou la validation d'un veto patriarcal extérieur. Voilà. Alors moi, je sors de cette paracha un peu déprimée, vous voyez, et c'est un peu négatif. Alors je me dis, bon, comment on va continuer ça? Alors bon, avec toute la bonne intention, je continue et je rentre dans Massé, qui est une paracha que j'adore parce qu'on repasse par les 42 étapes de ce long voyage, de ce long périple dans le désert. C'est un slam extraordinaire, une structure littéraire, une allitération vraiment unique que j'espère un jour pouvoir explorer avec vous. Mais ce qui me touche dans Massé, c'est que tout au long, après toutes ces aventures, après toutes ces épopées, après avoir trié ce tiroir rempli de ce fourre-tout, à la fin du livre des nombres, à la toute fin du désert, revient l'histoire des filles de Tselophade. Alors, pour rappel, pour ceux qui nous rejoignent ici aujourd'hui, Tselofade, c'était un homme, disons, qui était vraiment très dévoué à son travail et peut-être tellement dévoué qu'il a un peu oublié la notion du temps et de l'espace et il a décidé, en tant que bon bûcheron, de continuer à couper son bois le jour du Shabbat. Et pour le montrer en exemple, pour montrer l'importance du jour du repos, le divin, dans toute sa force punitive, le punit et Tselofade mourut. Il laissa derrière lui 5 filles, qui au moment de la répartition des terres de Eretz Israël, avant d'arriver en terre de Canaan, quand on dit quelle terre va appartenir à qui, se lèvent, vont vers Moïse et disent « Attends, il y a un petit souci là, notre père est décédé, on n'a pas de frère, on va perdre l'héritage sur nos terres. » Le cas est emmené devant l'Assemblée et amené devant le divin lui-même, qui tranche et qui donne gain de cause à ces 5 femmes. Qui dit que non seulement elles ont raison, mais elles vont aussi avoir le choix de leur mari. On leur donne 2 options. Au cas où elles épousent en dehors de leur tribu, ben, les terres passeront vers l'autre tribu, mais si elles décident de marier au sein même de leur tribu, les terres, l'héritage territorial, resteront au sein même de leur tribu. Voilà, le Midrash nous raconte qu'elles étaient très convoitées et très sages en même temps, qu'elles vont finir par épouser le cousin du Shtetl d'à côté et que tout finit bien comme il faut. Alors je sors de cette fin de paracha un peu rassurée. Les 5 filles de Tselophade ont des prénoms, elles s'appellent Noah, Malcha, Tirza, Ogla. Et en fait, moi j'aimerais les nommer peut-être Gisèle Halimi, Simone Veil, Gisèle Pellicot, Ruth Ginsburg, Elisabeth Berninter. En fait, toutes ces femmes qui à un moment ont eu une fenêtre assez fine, mais qui ont poussé cette fenêtre et avec persistance, avec demande, avec travail, ont pu faire évoluer la loi et ont pu reprendre un peu de leurs droits. Alors, Matot Massé, ça me met moi-même face à la Torah, qui toujours est tout et son contraire. Ce sur quoi j'aimerais vous laisser aujourd'hui, c'est une phrase qui m'a vraiment empli le cœur de lumière et j'aimerais dédier cette étude et cette chronique à Marc Arlaouaklin, qui pour le moment me nourrit énormément, qui, lorsqu'il écrit sur les 10 commandements, parle du Shabbat comme il traduit « souviens-toi du Shabbat » par « souviens-toi du futur ». Et Marc Arlaouaklin nous rappelle que le Shabbat dans la liturgie et dans la mythologie juive est souvent associé à une énergie féminine. On parle de la Shrina, on parle de la reine du Shabbat, on parle de l'Echa Dodi, l'Itra Kala, on parle de la fiancée vers laquelle on va à la rencontre d'eux. Et donc Marc Arlaouaklin nous rappelle, souviens-toi du Shabbat, souviens-toi de ton futur, si Shabbat est féminin, ça voudrait dire « souviens-toi que ton avenir est femme », pour l'ironie que Tselofade avait oublié le Shabbat. Alors voilà, Matot Massé me met face à moi-même, face à toutes les contradictions qu'on peut trouver dans le texte de la Torah et au sein de nous-mêmes. La Torah, c'est tout et son contraire. D'un côté, elle vous dit que bah, la parole de la femme, finalement, appartient à son père, et si pas à son père, à son mari. Et puis finalement, on vous dit que, non, mais attends, si tu prends la place, si tu prends l'opportunité de défendre tes droits et de demander un peu plus que ce qu'on t'a donné, eh ben, il te sera donné gain de cause. Moi, j'ai aussi envie de penser que peut-être, ça leur aura pris 40 ans à ces femmes pour trouver un homme juif qui non seulement puisse respecter leurs propres souhaits, leurs propres serments envers eux-mêmes, sans pour autant abuser de leur héritage, de leur capital social et économique. Comme dirait une très bonne amie à moi, « no nurse, no purse ». Et peut-être que ça, c'est véritablement la terre promise. En tout cas, ça aura valu le détour. Shabbat shalom.